Bonjour et bienvenue à la PEPS Radio Amber Livradois-Forez.
Mais nous avons tous les atouts pour permettre à des jeunes générations de venir s'installer.
Je crois que notre territoire Amber Livradois-Forez n'a pas le droit de ne pas tout tenter pour stabiliser la démographie.
On a cette chance justement d'avoir un territoire préservé.
Il importe que nous puissions avoir une vision d'avenir et que les élus qui auront en charge la communauté de communes Amber Livradois-Forez dans les 20 ans qui viennent puissent déjà voir se dessiner une feuille de route.
Vous écoutez la radio du projet de territoire d'ALF.
PEPS Radio Amber Livradois-Forez. Bonjour et bienvenue sur la PEPS Radio Amber Livradois-Forez. Nous sommes à la conclusion de cette dernière journée des ateliers d'avenir qui avait pour but de réfléchir ensemble au territoire de demain. Et nous sommes en compagnie de Céline Bonan, responsable du pôle agriculture, forêt, développement durable, environnement, je ne sais plus si je l'ai dit. Céline, du coup, tu as participé à ces ateliers aujourd'hui en tant qu'agent de la communauté de communes, mais aussi en tant qu'habitante du territoire, puisque tu vis sur Quinya.
C'est ça.
Est-ce que tu es originaire de ce territoire ou est-ce que tu es venue y vivre par choix
Alors, je ne suis pas originaire du territoire. Je suis arrivée, ça fera 2 ans au mois d'août, et on est venu y vivre par choix de qualité de vie. Juste avant, on était sur Saint-Étienne et un peu avant, on était en Picardie. Et je suis banlieusarde, enfin, je suis née en région parisienne.
Et comment as-tu connu ce territoire ?
Je l'ai connu quand j'étais toute petite, à 3 mois. Enfin, non, c'était pas le territoire parce que c'était de Vernay-la-Varenne.
Donc oui.
Livradois-Forez, c'est voisin. Mais je venais passer toutes mes grandes vacances au Vernay-la-Varenne, il y avait une maison de famille.
D'accord. Et aujourd'hui, quel avenir tu vois à ce territoire ? Est-ce que tu penses que nous réussirons ensemble à inverser la courbe démographique ?
Je crois que c'est possible. Il faut avoir confiance et il faut donner la confiance aussi. Enfin, il faut avoir confiance en la population, être à l'écoute des projets qui peuvent naître et permettent qu'ils se réalisent ces projets-là. Donc qu'il y ait une écoute entre les habitants, entre les élus, entre les entreprises, et que chacun y trouve son compte. Et à partir du moment où il y a un intérêt pour chacun, on aura des projets de territoire avec une plus-value et des projets qui durent dans le temps.
Alors, toute la journée, justement, on a mis nos lunettes du futur pour se projeter à l'horizon 2040 et faire émerger des actions qui serviront au développement du territoire. Là, j'ai mis mes lunettes aussi pour aller regarder vers 2050 et je vais te proposer un scénario que nous avons imaginé et sur lequel je vais t'inviter à réagir. Donc on est en 2050 au sein d'un parc naturel national. Le territoire ne compte plus que 16 000 habitants contre plus de 28 800 aujourd'hui. Et il est devenu précurseur en matière d'énergie renouvelable. Mais les paysages ont forcément connu des transformations majeur, puisqu'il n'est pas rare de voir des champs avec des panneaux photovoltaïques, des champs d'éoliennes et des barrages qui se sont construits, notamment sur l'Anse et sur la Dore. Si j'évoque avec toi ce scénario, qu'en penses-tu ? Quelle est ta réaction ? On parle beaucoup d'énergie renouvelable, c'est dans l'air du temps. On a un label TEPCV, territoire à énergie positive pour la croissance verte. Est-ce que ce scénario te semble plausible ou est-ce que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu extrême ?
Alors c'est possible qu'on se retrouve dans un scénario comme ça, parce que c'est les grandes directives qu'on se donne aussi, développer les énergies renouvelables, être en énergie positive. Par contre, ce qui ressort aussi, c'est qu'on s'adapte aux différentes communes, aux différents mini-territoires, et qu'on soit autonome localement. Et donc là, le scénario que tu décris, c'est plutôt autonome à l'échelle du territoire et pas localement. On développe sur des grandes échelles, donc en fait, on reproduit ce qui se produit à grande échelle sur le territoire, alors qu'on n'est plus dans un raisonnement à petite échelle.
Quel est le danger, du coup, de se projeter sur un scénario comme ça à grande échelle?
C'est qu'on mette des barrages ou faire des champs, des fermes solaires, contre-productif au niveau de l'environnement. Si on met des barrages, donc il y aura peut-être des passes à poissons, mais au niveau écologique, il n'y a pas de continuité écologique. Au niveau des fermes solaires, même s'il y a une réflexion autour des oiseaux, etc., la biodiversité en prend un coup aussi. Si c'est sur des grandes étendues, si on raisonne sur des grandes étendues, ça a des impacts sur l'environnement.
Et si on raisonne en termes de paysage?
Également. Après, je pense que c'est comme les autoroutes. Tout le monde la veut, mais personne ne veut que ça passe à côté de chez eux. Donc, s'il y a eu l'installation de grandes étendues de panneaux solaires ou d'éoliennes, et en termes de paysage, c'est un impact négatif aussi, négatif au niveau de la préservation de la qualité de vie.
Oui, il faut qu'on soit vigilant, puisqu'on le sait que ces paysages qui nous sont si chers participe à la qualité du cadre de vie que nous avons actuellement, et c'est un des points forts du territoire. Donc les énergies renouvelables, on est en quelque sorte obligé d'y aller, mais peut-être pas à tout prix, si j'ai bien compris.
Faut vraiment réfléchir d'un point de vue local, parce que et c'est pas en faisant des grandes, on prend l'exemple de la ferme solaire, donc plein de panneaux photovoltaïques. Si on en met plein à un endroit, pour alimenter quoi? L'idée, c'est pas de tirer des réseaux sur tout le territoire. Donc faut vraiment raisonner à l'échelle locale. On n'a pas besoin de mettre des milliers de kilomètres carrés sur un grand territoire, mais vraiment être local. Et il y en a, ça va peut-être être deux petites éoliennes et d'autres 10 mètres carrés de panneaux solaires.
Je reviens du coup à ta vie plus personnelle sur ce territoire. Tu as des enfants, il me semble-t-il, et aujourd'hui, la vie que tu leur proposes, c'est la vie que tu rêvais pour eux. C'est ce rythme de vie, ce cadre de vie-là que tu cherchais. C'est pour eux que tu as fait aussi ces choix?
Alors oui, ils rentrent en ligne de compte déjà dans la qualité de vie par rapport à la pollution, parce que Saint-Étienne, c'est très sympa, mais c'est pollué, c'est dans une cuvette. Donc on cherchait un environnement qui ne soit pas pollué, un environnement dans lequel il y ait de l'espace aussi, qui puisse un jardin, qu'on puisse cultiver la terre, qu'on puisse... nous, c'est ce qu'on recherchait. Après, eux, ce qu'ils souhaitent, peut-être qu'ils fileront en ville parce qu'ils ont connu la campagne et qu'ils vont fuir ça. Mais en tout cas, c'est ce que nous, on voulait leur apporter aujourd'hui par rapport à la qualité de vie.
C'est partir pour mieux revenir aussi. On ne s'interdit pas de partir, d'aller voir ailleurs, d'être des ambassadeurs ensuite de notre territoire. Et quelles sont les contraintes, selon toi, à vivre sur ce territoire? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu en perçois?
Alors, je ne perçois pas de contraintes. Après, moi, je suis arrivée par choix, et donc ça fait un peu moins de 2 ans. Ce que je peux entendre comme contraintes, c'est des contraintes de mobilité, des contraintes de non-accessibilité, par exemple, à tout ce qui est alimentation type grand supermarché ou tout ce qui est zone commerciale. Après, ça peut être aussi des arguments à l'inverse. S'installer dans une zone où, on ne va pas prendre la voiture et en 5 minutes être dans un... ça ne va pas ensemble avec la préservation des paysages. Donc, il faut être convaincu de savoir pourquoi on s'installe là et ce qu'on y attend.
Et ces sujets de la mobilité, de supermarché, ont été évoqués lors des ateliers de ce matin et de cet après-midi. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qui sont dessinées pour répondre à ces contraintes, entre guillemets?
Alors, on n'a pas du tout parlé de supermarché. On a plutôt parlé, ça rejoint les supermarchés, mais plutôt en termes de production locale. Mm-hmm. Donc, d'avoir des petits spots, un gros spot sur Amber et des petits spots au niveau des communes qui sera improvisionné par des producteurs locaux, donc à l'image du local qui est actuellement en Berre, voir comment on peut l'agrandir et en faire un supermarché et qui fonctionnerait sur les territoires en fonction des besoins des territoires. Il y en a qui peuvent fonctionner en associatif, il y en a qui peuvent fonctionner en entreprise. Voilà, ça c'est vraiment aux différentes communes de voir ce qui leur correspond. Et en termes de mobilité, donc il n'y a pas de remède miracle. Le territoire, on met du temps à le parcourir en voiture. On ne pense pas forcément que d'avoir je ne connais plus le nom, mais
un hyperloop,
c'est pas forcément adapté. Par contre, voir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer au niveau du covoiturage, parce que les voitures circulent, des applications au niveau des téléphones, des puces dans les voitures pour dire j'ai besoin d'avoir ça et je vais à telle destination, il y a une voiture qui passe et hop, on prend la personne. Voilà, optimiser les déplacements sans pour autant aller dans la haute technologie avec des navettes qui volent dans les airs.
Donc plein de belles idées, ça donnerait presque envie d'être en 2040 si on oublie l'âge qu'on aura dans 22 ans. Merci Céline. Dernière question, est-ce que toi aussi tu te sens PEPS, personne à énergie positive et solidaire ?
Alors s'auto-juger PEPS, je ne sais pas si on peut s'auto-définir.
Ou ambassadeur du territoire.
Ambassadeur du territoire, voilà. PEPS, après, je pense que c'est plus aux autres de le savoir, enfin, de l'identifier. Mais ambassadeur du territoire, oui, ça je le fais et je vends plus qu'un IA, du coup, mais voilà.
Merci Céline, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.